Je me réjouis de vous revoir tous. Et pour ce culte de rentrée, je pensais qu'il serait bon de réfléchir à ce qu'est l'Église, à la vie de l'Église. Et si je me suis demandé si je devais demander à chacun d'entre vous quelle est l'importance que revêt l'Église pour vous. Je ne peux pas vous le demander, ça n'irait pas maintenant, vous ne pouvez pas tous venir au micro. Mais j'essayais d'imaginer vos réponses et j'obtiendrai probablement des réponses assez variées. Certains me diraient que l'Église, bien, c'est le peuple de Dieu, ou le corps du Christ, ou le véritable Israël. Et puis ils s'attacheraient à définir l'Église selon la compréhension qu'ils ont de l'Église dans les Écritures. J'imagine que d'autres me diraient que l'Église, c'est sans doute la chose la plus importante dans leur vie, et parce que c'est là qu'on peut sortir de l'isolement, c'est là qu'on peut vivre une communauté de foi, c'est là que l'on peut développer ses dons. Mais peut-être que d'autres me diraient exactement le contraire, ils ne comprennent pas bien le sens de l'Église, ni pourquoi il faut aller au culte alors qu'on pourrait très bien vivre sa foi à la maison. Et donc, ce deuxième groupe de personnes s'attacherait à définir l'Église davantage en relation avec leurs aspirations personnelles. Et peut-être que j'obtiendrai un troisième groupe de réponses, mais je peux imaginer, je suis prêt à penser que ce groupe ne serait pas aussi important que les autres. Des gens qui me diraient, mais l'Église, ce n'est pas un contenu doctrinal, ce n'est pas une expérience, mais l'Église, c'est Simone, Martine, Henri, Antoine, Marie-France, Fidi, Juliana, Caroline, Juliette, Frémont, Willio et tant d'autres. Et quand on entend tous ces prénoms, eh bien, on remarquerait bien vite que tous n'ont pas la même origine, qu'il y a une diversité dans l'Église et que l'Église est formée de gens de toutes les générations et de toute origine. Des gens qui ont été rassemblés dans une communauté, ils ne se sont pas choisis, mais ils ont été rassemblés par un seul et même maître, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il ne s'agit pas forcément d'opposer les différentes réponses que je vous ai proposées. Mais il est intéressant d'envisager l'Église en s'intéressant à ceux qui la composent. Et c'est ce que nous allons faire ce matin, en lisant le chapitre 16 de l'Épître aux Romains, et je vais lire avec vous les 16 premiers versets. Ce chapitre clôt une lettre que l'apôtre Paul a adressée à l'Église de Rome. Et vous verrez, c'est une liste de noms, mais une liste très riche que je vous invite, sur laquelle je vous invite à réfléchir ce matin. Je lis Romains 16, les 16 premiers versets. Je vous recommande notre sœur Phoebé, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, et moi y compris. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie, et je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été le premier fruit pour Christ en Asie, ce qui veut dire le premier converti, si vous voulez, celui qui a inauguré la foi en Asie. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes. On pourrait aussi dire les gens de ma parenté, j'y reviendrai, et mes compagnons de détention. Ils sont très estimés parmi les apôtres, et ils se sont même convertis à Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur en Christ, et mon bien-aimé Stachys. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de l'entourage d'Aristobule, saluez Hérodion, mon compatriote. Saluez ceux de l'entourage de Narcisse, qui appartiennent au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose. Elle qui travaille pour le Seigneur. Saluez la bien-aimée Perside, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, qui a été choisi dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères et sœurs qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je m'arrête là dans la lecture. Eh bien, vous, parents, si vous cherchez des prénoms pour vos enfants, vous avez le choix. Et vous êtes sûr d'avoir une certaine originalité également. La question que nous allons nous poser ce matin avec à la lecture de cette liste de noms, c'est comment tous ces gens ont quelque chose à nous dire sur notre manière de vivre l'Église. Comment cette longue liste de salutations peut avoir un intérêt pour nous. Vous savez, normalement, si vous êtes familier du Nouveau Testament, vous savez que Paul ne salue pas autant de gens normalement à la fin de ses lettres. Et on peut se demander, mais pourquoi le fait-il dans cette lettre qu'il adresse aux chrétiens de Rome ? Et pour comprendre, il s'agit de que je dise quelques mots sur l'origine de cette lettre. Vers l'an 57 ou 58 de notre ère, l'apôtre Paul, qu'on appelle l'apôtre des païens, c'est celui qui est allé à la rencontre des non-juifs, eh bien, il se trouve à Corinthe. Il séjourne là pendant 3 mois. C'est son 3e voyage missionnaire. Il a déjà implanté beaucoup d'églises. Et il est bien conscient que dans toutes ces églises, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Ces églises, souvent de jeunes églises, donc, traverse des temps bien difficiles et lui aussi traverse des temps difficiles avec l'église dans laquelle il se trouve à Corinthe. Ce n'est pas facile pour lui, les rapports avec son église sont compliqués. Il doit faire face à une double opposition, il y a l'opposition des judaïsants, donc des chrétiens, mais d'origine juive, qui pensent que pour être un bon chrétien, il faut d'abord être un bon juif. Et puis il y a l'opposition de ce qu'on pourrait appeler des spiritualistes enthousiastes. Ces gens-là pensent qu'ils sont beaucoup plus spirituels que Paul et pensent aussi qu'ils savent beaucoup mieux parler que lui, beaucoup mieux prêcher. Donc Paul réfléchit. Il réfléchit par rapport à sa foi, à partir de son expérience. Et il va chercher à reformuler finalement son enseignement pour faire une sorte de synthèse globale. En même temps qu'il réfléchit, il pense à la suite de son ministère. Où va-t-il aller ? Il ne va pas toujours rester à Corinthe et il forme le projet de se rendre dans la capitale de l'Empire, à Rome. Mais avant cela, il veut faire un détour, un grand détour, par Jérusalem, où il tient à apporter la collecte qu'il a recueillie depuis longtemps pour les chrétiens juifs, d'origine juive, qui sont à Jérusalem et qui vivent dans la pauvreté. Il y a de la famine là-bas. Et il sait qu'en arrivant à Jérusalem, cela ne va pas être simple. Il devra affronter les critiques de certains de ces judéo-chrétiens qui l'accusent d'une certaine manière de renier son passé juif. Mais quand il réfléchit à son voyage à Rome, il sait aussi que ce ne sera pas facile. Là-bas aussi, à Rome, il va devoir s'imposer comme l'apôtre de l'Église. Ce n'est pas Paul qui a fondé l'Église de Rome. Il n'y est jamais allé jusque-là. Sans doute cette église a été fondée par des juifs, peut-être des juifs qui se trouvaient à Jérusalem au moment de la Pentecôte et qui ont embrassé le message de la bonne nouvelle qui était annoncée, qui sont retournés chez eux et qui ont fondé des petits groupes où ils vivaient ensemble comme disciples de Jésus, en étudiant la Bible, en priant ensemble, en prenant la scène, en s'entraidant. Et peu à peu, cela a fait tache d'huile, des gens qui étaient d'origine païenne se sont aussi convertis et sont venus rejoindre ces chrétiens d'origine juive pour former des communautés mixtes. Malheureusement, en l'an 41, une première fois. En l'an 49, une seconde fois, les Juifs ont été contraints de quitter Rome sur ordre de l'empereur. Et c'est là qu'un couple, Priscille ou Prisca et Aquilas, qui sont juifs d'origine, doivent quitter l'Italie, qu'ils s'en vont à Corinthe, qu'ils rencontrent l'apôtre Paul, et probablement qu'ils se convertissent au contact de l'apôtre Paul pendant ce séjour à Corinthe. Les Juifs ont été chassés de la ville de Rome, et donc ces groupes qui existent, formés maintenant uniquement de gens d'origine païenne, doivent se prendre en main. Ces chrétiens d'origine païenne deviennent majoritaires et même dominants. Et quand cette vague de chrétiens d'origine juive revient à Rome, parce qu'à un moment donné, ils peuvent revenir, cela crée des tensions avec ceux qui sont restés, qui ont continué de vivre l'Église, et ceux qui reviennent avec peut-être une autre manière de vivre la foi. Paul a entendu parler de ces tensions. Il veut aller maintenant à Rome, et il aimerait poursuivre ensuite son voyage vers l'Espagne. Et quand il pense à ce qu'il attend à Rome, il imagine déjà les questions qui vont se poser. Et quand il écrit pour ces chrétiens de Rome, pour préparer en quelque sorte son voyage, il formule une sorte de traité théologique, si vous voulez, qui prend en compte les questions qu'il imagine, et puis toutes celles qu'il tire de son expérience au contact des églises qu'il a fondées. Il essaye d'asseoir la foi des croyants. Il formule une forme de synthèse de l'Évangile. Mais comme il sait qu'il y a des difficultés entre le groupe des judéo-chrétiens, au sein desquels il y a peut-être même plusieurs sous-tendances, et puis le groupe des pagano-chrétiens, au sein duquel il y a peut-être aussi plusieurs sous-tendances, eh bien, il formule aussi une compréhension de ce qu'est l'Église en parlant des forts et des faibles. Relisez pour cela les chapitres 14 et 15 de l'Épître aux Romains. Paul se sent le besoin d'écrire. Et c'est ce besoin qui le pousse à écrire cette lettre aux Romains. Cette lettre, qui est doctrinale d'abord, qui parle ensuite de la vie pratique à partir du chapitre 12, se termine avec le chapitre 16 que nous avons lu. Ce chapitre n'est pas dans tous les manuscrits. Il y a des manuscrits de l'Épître aux Romains que l'on a retrouvés sans le chapitre 16. Parfois même sans le chapitre 15. Et du coup, on se demande, mais d'où vient le fait que certains manuscrits ont ce chapitre et d'autres non? Il me semble que l'explication la plus plausible est de considérer que c'est Paul qui a écrit les 16 chapitres, qu'il a formulé une longue liste de salutations parce qu'il connaissait un certain nombre de ces chrétiens de Rome. Rome, c'était la capitale de l'Empire. Tout le monde montait à Rome comme tout le monde monte à Paris aujourd'hui. Donc il avait croisé la route de plusieurs d'entre eux, il les mentionne et il prépare ainsi son arrivée dans cette église. Mais cette lettre a été recopiée, parce qu'elle était une lettre importante, elle a été recopiée pour d'autres églises et certains scribes ont cru bon de ne pas forcément joindre cette liste de salutations, ils disaient que c'était inutile pour les autres églises. Et c'est pour cela qu'on a certains manuscrits sans le chapitre 16. Nos Bibles l'ont gardé, et heureusement, parce que je crois que ce chapitre a quelque chose à nous enseigner. Et j'y viens à ce chapitre. Dans ce chapitre, il y a 27 prénoms. Et dans ces 27 prénoms, il y a, dans les 16 premiers versets en tout cas, il y a 3 couples qui sont mentionnés, il y a 6 femmes qui sont mentionnées en plus, et 15 hommes. On pourrait rajouter encore des personnes mentionnées sans leur prénom, la sœur de Nérée et la mère de Rufus. On voit aussi qu'il y a plusieurs groupes de maisons qui sont appelés des églises de maisons. En fait, il n'y avait pas une grande église, il y avait plusieurs églises qui se retrouvaient dans des maisons. Il n'y avait pas de bâtiment qui s'appelait église à cette époque. Parmi les chrétiens qui sont mentionnés, plusieurs sortent du lot. Je pense d'abord à Phoebé, la première qui est dans la liste. Elle n'est pas membre de l'église de Rome. Elle est membre de l'église de Sancré. Sancré, c'est le port de Corinthe, là où se trouve Paul au moment où il écrit la lettre. Comme Phoebé s'en va à Rome, Vraisemblablement que Paul la charge de transmettre cette lettre à l'église de Rome. Et c'est pour cela qu'elle figure en premier dans la liste. Paul prend soin de recommander cette sœur à l'église de Rome pour qu'elle soit bien accueillie. C'était une pratique courante à l'époque. Quand un frère ou une sœur visitait une autre église, on lui donnait une lettre de recommandation. Certains milieux, aujourd'hui encore, le font. Dans les églises baptistes, on peut recommander un frère ou une sœur dans une autre église baptiste pour qu'il devienne membre de cette église, qu'on l'accueille en tant que membre, puisqu'il est déjà membre d'une autre église de la même famille. Donc ici, Phoebé est recommandé par Paul, qui demande aux chrétiens de Rome de l'accueillir de la meilleure des manières qui soit, d'une manière chrétienne, comme Christ nous accueille. Il est précisé que cette sœur est diacre ou diaconesse. Alors on s'interroge parfois sur le ministère des femmes dans l'Église. Et il est intéressant ici de noter que Phoebé est décrite comme diaconesse de l'Église de Sancré. Le terme de diacre implique un statut particulier, une fonction particulière dans l'Église. Mais ce terme pourrait aussi se traduire simplement par serviteur ou servante. Alors on doit faire un choix. Est-ce qu'on doit traduire simplement par servante de Christ ou par diaconesse? Mais comme il est précisé qu'elle est diaconesse ou diacre de l'Église de Sancré, il me semble normal de considérer qu'ici il s'agit non pas d'un qualificatif, le qualificatif de servante, mais d'une fonction qui est la sienne. Elle est diacre, elle a une fonction particulière dans cette Église. Et des femmes pouvaient avoir des fonctions de diacre dans les églises du Nouveau Testament. Alors on peut se demander, mais quelle est la fonction qu'elle assumait? Cela ne nous est pas dit explicitement, mais il est dit qu'elle était protectrice. Le texte nous le dit. Et donc, en sa qualité de protectrice, elle a probablement joué un grand rôle dans l'accueil et la protection de certains chrétiens qui arrivaient au port de Sancré dans leur voyage. Elle devait avoir une générosité, un don d'hospitalité important qui avait été reconnu dans la communauté et elle exerçait ce rôle-là dans cette église. Elle avait peut-être aussi un statut social plus important qui venait des moyens enviables qu'elle pouvait avoir puisqu'elle a les moyens de se rendre à Rome et de faire ce voyage. Mais en même temps, on voit bien que quand on a cette faculté d'aider les autres, il s'agit parfois d'être aidé soi-même. Phoebé a pu aider des chrétiens dans le port de Sancré, elle a pu même aider Paul, mais à son tour maintenant d'être aidé, c'est-à-dire d'être reçu par les chrétiens de l'église de Rome. D'autres femmes dans ce texte portent des responsabilités. J'aimerais m'arrêter encore sur deux d'entre elles. Tout d'abord, Prisca. Prisca ou Priscille, qui est la femme d'Aquilas. Elle est mentionnée 6 fois dans le Nouveau Testament et 4 fois, elle est mentionnée avant son mari. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que l'on mentionne la femme avant le mari? Ce n'est pas la norme, ce n'est pas la règle. La raison la plus probable, c'est qu'elle avait probablement une sorte de prééminence dans le couple de par la fonction qu'elle occupait dans l'Église. Elle était devant son mari dans la fonction qu'elle occupait. Toutefois, ce qu'on apprend de ce couple, c'est qu'ils travaillent ensemble. Quand on les voit mentionnés, ils sont toujours ensemble. Ce n'est pas juste la femme, l'épouse qui est mentionnée. Ensemble, ce couple a fabriqué des tentes avec Paul pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins tout en annonçant l'Évangile. Mais ils n'étaient pas dépendants ainsi de l'aide financière d'une église. Et ce couple a aussi eu l'occasion de former Apollos, qui est devenu un grand prédicateur, un grand apologète. Paul nous apprend aussi que ce couple lui a sauvé la vie à un moment donné. On ne sait pas exactement quand, mais on pourrait imaginer que cela a pu être à l'époque où Paul se trouvait à Éphèse, parce que dans cette ville, les fabricants d'idoles ont vu leur commerce chuté, des gens ont fait faillite. Pourquoi? Parce que les gens devenaient chrétiens et n'achetaient plus aucune idole dans les magasins. Donc il y a des, des artisans qui ont fait faillite à cause de la proclamation de l'évangile. Ça a bousculé le commerce local. Et l'évangile a cette capacité de bousculer l'économie. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans cette ville d'Éphèse, on s'en est pris à Paul, à ceux qui étaient autour de lui, et on a cherché même à le mettre à mort. Est-ce à ce moment-là que Prisca et Aquilas ont sauvé la tête de Paul? On ne le sait pas, mais peut-être. En tout cas, un couple où l'épouse joue un rôle important. Un autre couple qui est remarquable, c'est Andronicus et Junia. Dans certaines Bibles, au lieu de Junia, qui est un prénom féminin, on trouve Junias, qui est un prénom masculin. Donc là aussi, il nous faut choisir, est-ce que c'est un prénom féminin ou masculin? Mais je pense qu'aujourd'hui, la plupart des spécialistes considèrent que c'est un prénom féminin, et c'est ce que je pense aussi, en ayant réfléchi à la question. Donc Junia serait probablement l'épouse d'Andronicus. Or, qu'a-t-il dit à propos de ce couple? Que ce sont des personnes éminentes, très estimées parmi les apôtres. Ils ont donc le titre d'apôtre. S'ils ont le titre d'apôtre, c'est que Junia, femme, a ce qualificatif d'être apôtre dans l'Église, avec son mari. Ce couple, c'est un couple qui s'est converti il y a très longtemps déjà, puisqu'ils étaient chrétiens avant Paul. Mais si Junia est apôtre, il faut s'interroger sur ce qu'est un apôtre, comme on s'est interrogé tout à l'heure sur ce qu'est un diacre. Il y a bien sûr les 12 disciples de Jésus qui sont appelés des apôtres, auxquels on ajoute l'apôtre Paul. Ils sont appelés apôtres avec un sens fort, un sens étroit, d'une part parce qu'ils ont vu le Christ ressuscité, et d'autre part parce qu'ils ont été revêtus d'une mission. Et donc ils forment le groupe étroit des 12 apôtres, si vous voulez. Et puis il y a un sens un peu plus large, avec des apôtres qui ont également implanté des églises, comme Jacques ou Barnabas, ou des collaborateurs de Paul, qui peuvent être qualifiés aussi d'apôtres, avec un sens un peu plus lâche. Et puis il y a un sens plus général du mot apôtre, puisque apôtre veut dire envoyé. Donc un apôtre, c'est un envoyé de l'Église, un délégué, un émissaire, un chargé de mission. Et je pense que c'est ce sens qui convient sans doute pour Andronicus et Junia. Ce sont des gens qui ont été chargés de mission, d'une certaine manière. On sait qu'ils ont été mis en prison parce qu'ils propageaient l'évangile hardiment, avec audace, et que cette audace leur a valu d'être dans les géoles romaines. Ils ont eu de la hardiesse comme Paul avait de la hardiesse. Ils ont partagé ce même ministère. Et dans ce sens-là, ils sont dits remarquables, estimés parmi les apôtres. Cette hardiesse pour l'évangile a fait que l'on a eu de la considération pour eux. Mais Paul ne précise pas qu'ils auraient implanté une église, et donc probablement qu'il faut comprendre qu'ils sont apôtres dans un sens un peu plus lâche que le sens qu'on attribue aux 12 apôtres. Ils ont sans doute, parce qu'ils sont chrétiens depuis très longtemps, par contre, édifié l'église locale de Rome. Ils ont joué un rôle sans doute marquant pour l'église de Rome. Quand on considère la liste de noms du chapitre 16, on s'aperçoit que ces noms sont très divers, qu'il y a une mixité ethnique, sociale. Et vous savez, l'Église, c'est un peu un laboratoire de la mixité sociale dans le monde aujourd'hui. L'Église est là depuis 2000 ans. Et c'est un des seuls lieux, ou le seul lieu, dans lequel les gens ne se sont pas choisis, mais acceptent de se retrouver ensemble pour chanter, pour prier, pour servir Dieu, pour servir les autres, qu'ils soient esclaves, affranchis, patrons, gens de la haute société, ils sont ensemble sur les mêmes bancs de l'Église. Tous sont égaux devant Dieu. Et cela, vous le retrouvez assez peu dans la société. Généralement, on choisit des gens qui nous ressemblent. Quand on fait partie d'une association, c'est avec des gens qui ont le même intérêt, la même pratique, le même rang social souvent. L'Église est un lieu de la diversité, un laboratoire aujourd'hui pour une société qui a de la peine à fonctionner ensemble, un laboratoire où on devrait pouvoir montrer qu'il est possible de vivre ensemble, même si ce n'est pas toujours facile. Ce n'était pas facile pour Rome, ce n'est pas facile pour nous, ce n'est facile pour aucune église. Et néanmoins, on le vit depuis 2000 ans. Dans cette liste, on constate des gens de diverses origines. Certains ont une origine grecque, Apelles, Épénète, Narcisse, Tryphène, Tryphose. Certains ont une origine romaine, Julie, Rufus, Urbain. D'autres ont une origine juive, Andronicus, Aquilas, Aristobule, Junia, Marie, Prisca. Alors ça, c'est la liste que nous donne la Tobe. D'autres spécialistes attribuent parfois d'autres origines à ces prénoms. Mais tous les spécialistes sont d'accord pour parler d'origines très diverses. On trouve une diversité sociale dans cette Église. Certains sont des esclaves, d'autres sont des affranchis, d'autres sont des personnes simplement libres. Ampliatus à Saint-Crite, Hermas, Hérodion, Nérée, Olympas, Patrobas, Perside, Philologue, Phlégon, Stachys sont sans doute des prénoms de gens qui étaient esclaves ou qui ont pu être affranchis. On peut mentionner encore des gens qui ont une histoire particulière. Et on trouve souvent dans les églises des personnes qui ont une histoire singulière. Là, je pense à Rufus. Rufus est sans doute, ou en tout cas certains l'estiment, le frère d'Alexandre et le fils de Simon de Cyrène. Vous vous souvenez de Simon de Cyrène? Celui qui a porté la croix de Jésus? Cyrène, c'est une ville qui se trouve au nord de la Libye. C'était une colonie grecque. Rufus, qui habite à Rome, est peut-être un Africain du Nord. Rufus veut dire le choisi, et Paul joue un peu avec son prénom, il dit « tu es le choisi du Seigneur ». Je trouve assez réjouissant de retrouver dans cette liste le fils du porteur de la croix de Jésus, si tel est le cas en tout cas. Dans cette liste, on repère aussi 5 églises de maison. Il n'y a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, une seule et grande église, parce que l'église n'avait pas les moyens d'avoir une grande salle. Et bien en même temps, ça les aurait trop exposés. Alors ils se retrouvent dans les maisons de gens aisés qui ont des moyens pour accueillir chez eux. Il y a la maison de Prisca et d'Aquilas. Mais il y a aussi une église dans la maison d'Aristobule, qui n'est peut-être pas un chrétien, parce qu'il n'est pas dit qu'on doit le saluer. Il est parlé des gens de sa maison. Il y a une autre dans la maison de Narcisse, qui n'est peut-être pas non plus un chrétien, mais qui accueille des gens dans sa maison. Une autre encore chez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas et Hermas, avec d'autres qui forment une église de maison. Paul demande de saluer les frères et sœurs qui sont avec eux. Et puis une communauté encore chez Philologue et Julie, probablement un autre couple qui est mentionné ici, et qui se retrouve avec Nérée, sa sœur, Olympe et plusieurs autres chrétiens. Donc au moins 5 églises de maison à Rome, qui pouvaient recueillir des dizaines, peut-être une cinquantaine de personnes. C'était des grandes maisons souvent. Paul s'adresse à toutes ces églises comme si ce n'était qu'une seule église. Et ce qui est probablement le cas sur le plan structurel, elles devaient entretenir des liens entre elles, elles devaient s'entraider. On pourrait facilement imaginer que les responsables de ces diverses églises de maison travaillaient en équipe, même si ce n'est pas dit ici. Lorsque j'exerçais un ministère de pasteur en Alsace, j'ai eu un assistant qui a ensuite fondé une première église à Strasbourg. Avec l'idée de rejoindre les gens, il a fait aussi un coffee bar et puis un café assez branché dans la ville où les gens viennent volontiers. Et quand nous discutions ensemble, on réfléchissait, vaut-il mieux essayer de fonder une église qui va grandir et devenir une très grande église, ou vaut-il mieux fonder des petites églises qui vont être liées entre elles? Et il a fait le choix de fonder plusieurs petites églises, chacune avec une spécificité, chacune s'adressant à un public particulier dans un quartier particulier de la ville. Et aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que cela, Eh bien, c'est la troisième église déjà qui est en train d'être formée à Strasbourg. Et je trouve que le modèle de l'église de Rome est en parfaite adéquation avec ce qu'il vit à Strasbourg. On apprend, toujours dans cette liste, et c'est là qu'on voit la diversité, qu'il y a des gens de la parenté de Paul. Alors, second 21 dit compatriotes, c'est pas impossible de traduire par compatriotes. Je serais tenté de croire que ce sont des gens de la parenté, parce que c'est un phénomène tellement fréquent d'avoir des grandes familles, et puis de retrouver des gens de la même famille dans diverses églises. On le voit aujourd'hui dans nos milieux évangéliques. Andronicus, Junia, Hérodion pourraient être ainsi des gens de la famille de Paul. J'ai parlé d'Aristobule et de Narcisse tout à l'heure, qui accueillent des gens, une église dans leur maison, et qui ne semblent pas forcément être chrétiens ou appartenir à cette église. Je trouve magnifique que des non-chrétiens puissent ouvrir leur maison et accueillir des gens qui veulent célébrer leur foi. Il y avait sans doute des esclaves ou d'Aristobule, de Narcisse, mais forcément d'autres personnes qui venaient d'horizons plus variés, divers, d'ailleurs, qui se retrouvaient là. Et c'est tout à fait remarquable que de trouver des gens qui sont des craignants Dieu, si vous voulez, qui sont des gens bien intentionnés à l'égard des chrétiens, qui peuvent avoir parfois des gestes tout à fait remarquables à l'égard des chrétiens. Nous ne devrions pas trop nous méfier d'être en contact avec des gens qui nous sont favorables. Au contraire, nous devrions remercier le Seigneur de trouver des gens comme cela. On a ici le sentiment d'une belle église, d'une église engagée. Même si on sait par ailleurs, et je l'ai évoqué, qu'il y avait des fragilités dans cette communauté. Paul va chercher à remédier à ces fragilités en écrivant son épître. Mais malgré tout, c'est une belle église. Quand on observe l'attitude de Paul à l'égard de cette église qu'il n'a pas encore visitée, moi j'observe trois choses qui démontrent son souci pastoral. La première, c'est qu'il encourage une dynamique collaborative. Pour 3 des 27 personnes qui sont mentionnées, en Christ, il manifeste une certaine reconnaissance, par exemple à l'égard de Prisca et d'Aquila, s'il dit « je leur suis reconnaissant pour ce qu'ils ont fait ». Il y a une notion d'équipe qui se perçoit, même si ses frères et sœurs sont sous l'autorité de Paul. Deuxième chose, c'est que je vois que Paul montre une réelle affection pour plusieurs. À l'égard de 3 personnes, il dit « mon bien-aimé dans le Seigneur » ou « la bien-aimée ». Il y a de réels liens d'amitié fraternelle qui sont là et qui se démontrent par la manière dont il salue les personnes. Et puis la troisième chose qui est mise en évidence, c'est que Paul souligne l'engagement de plusieurs. Pour 5 personnes, il dit « elle a beaucoup travaillé pour vous ». Il a fait ses preuves en Christ. Elle travaille pour le Seigneur. Elle a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Il s'agit de Marie, Apelles, Tryphène, Tryphose, Perside. Pour toutes les autres personnes où il n'y a pas de mention particulière, c'est-à-dire 14 personnes, sans compter tous ceux qui appartiennent aux églises où le juste fait la mention aux frères et sœurs, Paul les nomme par leur prénom, ce qui dit quelque chose quand même de la préoccupation qu'il a pour ces gens. Par contre, vous remarquez que Paul ne dit rien du caractère des personnes, de leur façon de travailler, de leurs succès, de leurs échecs. Ce qui est mis en avant, c'est leur engagement pour Christ, leur dévouement et le sens qu'ils ont de la communauté. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer maintenant cette prédication en vous interpellant sur ces deux notions, le sens de l'engagement et la communauté. J'ai posé la question au début du message de ce qu'est l'Église pour chacun d'entre vous. J'aimerais poser maintenant 2 questions plus précises pour terminer. La première, c'est comment participes-tu à la communauté que Dieu a établie au tabernacle? Le risque, dans une église comme la nôtre, c'est d'aller se mettre au fond de la salle ou de la galerie, de venir une fois que le culte a commencé, de repartir tout de suite quand le culte est terminé. On vient pour entendre la parole, on vient pour soi, mais on ne cherche pas forcément le contact. La vie parisienne est une vie qui est très individualiste. Beaucoup de gens vivent seuls à Paris. Mais le projet de Dieu, je le crois, pour ses enfants, c'est la communauté. Dieu s'est fait un peuple. Il a envie que l'on vive ensemble, que l'on apprenne à vivre ensemble. Donc, comment est-il possible de prendre de la distance par rapport à la culture individualiste dans laquelle nous sommes pour apprendre à faire communauté? Je pense qu'on a un grand défi qui est là devant nous, comme sans doute pour toutes les églises qui se trouvent dans des grandes villes. Un défi qui doit nous mobiliser, parce que l'église n'est pas une collection d'individus, mais elle est par essence une communauté. Et la deuxième question qui me semble ressortir de l'étude de ce passage, c'est l'engagement dans le service pour le Seigneur. Comment t'engages-tu pour le Seigneur avec tes dons? Nous ne sommes pas tous diacres ou apôtres, pour reprendre les termes qui sont mentionnés dans le texte. On ne sait pas forcément ce que chacun de ces chrétiens faisait, mais ils étaient là, dans l'Église. Ils étaient même très actifs pour certains, ils travaillaient pour le Seigneur, avec tous leurs moyens. L'Église n'est pas simplement une usine qui a besoin de collaborateurs pour faire tourner un programme. L'Église est d'abord un mouvement qui cherche à gagner d'autres pour l'Évangile. Et pour cela, il faut des intercesseurs, il faut des gens qui témoignent, il faut des gens qui accueillent, il faut des gens qui sachent aider leur prochain d'une manière concrète. Et c'est le modèle qui nous est présenté ici. Même si tout n'est pas parfait dans l'Église de Rome, comme tout n'est pas parfait dans notre Église, nous avons un chemin qui nous est tracé. J'aimerais inviter chacun d'entre nous à prendre la place qui est la nôtre dans l'Église qui est celle du Seigneur, que nous soyons engagés pour l'Évangile et donc pour le Seigneur. J'ai envie de vous dire, suis le Seigneur. Sers le Seigneur là où tu es. Prends ta place, cherche à entendre sa voix et agis. Et le Seigneur te bénira en retour, soit ici-bas déjà, mais dans tous les cas, dans l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Amen.